Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Amis fous du volant, soyez les bienvenus pour votre podcast consacré à l'actualité de la Formule 1. Évidemment, on va parler du Grand Prix de Monaco, 7e manche de la saison 2022, qui a abouti à la victoire de Sergio Pérez devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Stéphane, ravi d'être à tes côtés.
De même.
T'as bien noté hein, les 7258 événements qui sont survenus pendant cette course, un peu avant, un peu après, c'était complètement fou.
On ne va pas parler de tous parce que ça serait trop long, mais...
C'est dommage parce qu'il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain,
oui,
finalement, on a 2 semaines pour débriefer, j'espère que vous êtes bien installés, ça va être un peu long.
on va balayer l'essentiel.
Alors on va évidemment évoquer la victoire du Mexicain en principauté, en élargissant un petit peu, ça commence bien, j'ai pas d'antipatinage moi non plus, en élargissant un petit peu notre champ de vision, sachant qu'il n'a que 15 points de retard au championnat des pilotes sur Max Verstappen, on se demandera si Sergio Pérez n'aurait pas une chance de disputer la couronne mondiale cette saison. Il avait signé une magnifique pole position, résisté au début de course chaotique. Charles Leclerc avait tout bon lors de ce Grand Prix avant que la Scuderia ne se mélange les pinceaux dans la stratégie et fasse échouer ce même Charles Leclerc au pied du podium de son Grand Prix. On reviendra sur le parcours délicat et de Charles Leclerc et de la Scuderia d'ailleurs un peu plus dans son ensemble. Monaco, le glamour, le prestige d'une victoire qui vaut plus que les autres. Pour les pilotes, l'histoire de cette épreuve dans son ensemble. Mais Monaco est-il encore adapté à la F1 moderne? C'est la question que l'on va se poser avec Stéphane Vrignot au moment où la F1 hésite un petit peu à renouveler le contrat avec la principauté pour les prochaines années. Ce podcast, Les Fous du Volant, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc Les Fous du Volant aujourd'hui avec une question. Pérez pourrait-il jouer le titre mondial en 2022 ? Tout ça parce que dimanche, Sergio Pérez a remporté la 3e victoire de sa carrière et forcément la plus prestigieuse de son parcours en Formule 1 à l'issue de ce Grand Prix de Monaco. Le Mexicain a été le premier des hommes de tête à rentrer au stand pour passer des pneus pluie aux pneus intermédiaires et de ce fait, il a gagné un temps précieux qui lui a permis ensuite de repasser une deuxième fois à son box, cette fois pour s'aligner sur le choix de pneus slick fait par Carlos Sainz. Avec cette victoire, Pérez est donc 3e du championnat, avec 6 petits points de retard sur Charles Leclerc, et finalement seulement 15 sur son chef de file Max Verstappen, d'où la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il peut être champion du monde? Stéphane, est-ce que pour toi, Sergio peut-il viser cette couronne? Je me permets une petite remarque pour te laisser quelques secondes pour réfléchir. On se souvient qu'il avait offert la victoire à Verstappen à Barcelone. Et si ça n'avait pas été le cas, évidemment, Sergio Pérez aurait 7 points de plus. Verstappen aurait mathématiquement 7 points de moins. Donc, il n'y aurait qu'un point d'avance pour Verstappen au championnat. Autrement dit, les deux font jeu égal. Est-ce qu'il peut être champion?
Oui, mathématiquement. Il l'a d'ailleurs dit, même avant cet événement, il a dit « Mais moi, je suis aussi en course pour le titre mondial. Je suis un prétendant. Ne m'oubliez pas. » Ça, c'était avant sa victoire.
À qui le disait? Aux journalistes ou à ses patrons?
Aux médias, parce que...
je ne sais pas.
On résume ça, effectivement, à un duel Leclerc-Verstappen cette année. On se doute, on pense qu'à un moment, il va sortir du jeu. Moi, ça me fait penser à une année, je crois que c'était 2017. C'était en tous les cas à Austin. Et sur la grille de départ, avant le départ, il y avait Hamilton qui faisait face, je crois, donc à Vettel, son adversaire pour le titre. Et on considérait que c'était un duel pour le titre. Et à cet instant, Bottas était encore mathématiquement titrable, je dirais. Et tout le monde était tellement focalisé là-dessus qu'on avait oublié cette part un petit peu mathématique. Alors, Moi, je te dirais oui, ça serait peut-être surprenant. Je pense, par exemple, à la saison 2001. Häkkinen était double champion du monde en titre et il avait accumulé cette année-là des abandons, des problèmes de fiabilité. Et c'est Coulthard, le numéro 2, depuis toujours chez McLaren, qui s'était retrouvé dans la lumière et qui avait failli être champion du monde. Donc là, Verstappen a abandonné deux fois cette année, Pérez 1, donc Pérez une fois. Donc on peut se dire que après 7 Grands Prix, mathématiquement, 15 points, c'est pas grand-chose. Il reste 22 courses. Il peut aller assez loin comme ça et se retrouver à 2-3 Grands Prix de la fin, encore dans le match, ce qui posera peut-être des problèmes de gestion à Red Bull.
Exactement. Alors moi, j'aimerais y croire, honnêtement, Stéphane, parce que Sergio Pérez, on le sent finalement plus fort qu'il ne l'a jamais été. Cette F1 2022, il avait déjà fait une belle première saison avec Red Bull l'année dernière. Mais là, les caractéristiques de cette F1 2022, elles vont comme un gant aux qualités de gestion de pneumatique de Sergio Pérez, à ce qu'il aime qu'une F1 lui renvoie. C'est F1 un petit peu plus lourde. On voit bien qu'il est très fort. On voit bien qu'il était plus vite à Monaco que Max Verstappen. Et que... à la régulière, Max Verstappen n'a jamais eu une occasion de passer devant, devant son coéquipier.
Week-end. Et moi, je trouve quand même, Gilles, que depuis le début de l'année, Pérez n'existe pas tellement par rapport à Verstappen. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé chez Red Bull.
Rajoute la Catalogne, où il était quand même devant.
Oui, bien sûr, mais ça me fait penser un petit peu chez Red Bull. Aux années 2010 et 2012, Weber était beaucoup plus fort que Vettel et on ne savait pas pourquoi. C'était son week-end, c'était son circuit et Vettel, ben, il n'y avait rien à faire, il n'y arrivait pas. Même chose pour Ricciardo en 2018, alors d'une façon un petit peu différente parce que Verstappen avait fait une erreur, mais Ricciardo, c'était le sans faute et il avait gagné comme ça. Il avait eu son week-end à Monaco, donc c'est un petit peu spécial. Mais après cette Grand Prix, je ne l'attendais pas du tout là. Ça, c'est clair, c'est évident. Il a eu ça aussi, alors que l'année dernière, ça avait été assez difficile pour lui et Verstappen s'était promené. Donc, c'est la voiture de cette année sur ce circuit qui lui convient.
Là, honnêtement, si on reprend les positions de la première partie de course, Pérez 3e, Verstappen 4e, c'est clair que si les positions étaient restées en l'état, à l'approche de l'arrivée, on aurait dit à Sergio Pérez de s'écarter parce que Red Bull roule pour Verstappen. C'est un mystère pour personne, c'est cruel, c'est cynique, mais c'est comme ça, on lui aurait demandé de s'écarter. Donc finalement, la seule solution qu'avait Sergio Pérez, la pluie, elle a été salvatrice pour le Mexicain, c'était de se démarquer, de prendre une stratégie risquée, celle d'être le premier à passer en pneu intermédiaire, parce que dans la logique, dans la façon de faire de la stratégie en Formule 1, évidemment qu'on ne fait pas prendre le plus gros risque à son numéro 1, à celui qui joue le titre. Donc on envoie toujours une sorte de poisson pilote.
Mais la logique quand même, c'est de faire entrer la voiture qui est positionnée, qui a la meilleure position en piste, parce que c'est elle qui va avoir le plus de chances de faire l'undercut, logiquement. Donc c'était un petit peu l'envoyer en éclaireur. Gasly tournait, mais...
C'est ce que j'allais dire, en éclairant...
Comme un avion.
Et en même temps, c'est Sergio Gasly, c'est Pierre Gasly qui a été le plus courageux dans ce Grand Prix. Je suis heureux parce qu'on a retrouvé un petit peu, lui qui avait été très malheureux en qualification, qui n'avait pas pu faire un dernier tour. Là, on a retrouvé un petit peu le Gasly... je suis désolé, je vais employer un mot qu'on n'utilise pas normalement en journalisme, mais j'en vois pas d'autre, qui a été suffisamment couillu pour tout de suite mettre des pneus intermédiaires en disant on verra bien ce que ça donne, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et il Hamilton a fait la démonstration que ça marchait. Donc Hamilton a été ensuite le deuxième à enchaîner. Et là,
il n'avait rien à perdre.
Pérez, il y est allé.
Voilà, bingo. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui avait le lead. Et puis Verstappen suivait derrière. Et Verstappen était dans la peau du numéro 2 ce week-end. C'était un petit peu étonnant, inhabituel. Et ce qui est sympa, c'est que Checo Pérez a gardé ce leadership jusqu'au bout. Et même sur les 33 derniers tours où il a fallu faire de la résistance, il y a une belle attaque de Sainz à la fin. Il a fermé tout à double tour. Ça m'a un petit peu rappelé la course de Ricciardo aussi en 2018. Et je dirais qu'on est content pour lui parce qu'il ne sera peut-être jamais champion du monde, mais... Quand tu as gagné le Grand Prix de Monaco, c'est sur ton palmarès et on te présente toujours comme ça après.
C'est ça.
Marc Weber, il a gagné deux fois le Grand Prix de Monaco, il n'a jamais été vice-champion du monde, etc. Il y a d'autres pilotes comme ça qui ont fait en fait leur carrière sur cette victoire à Monaco.
Oui, c'est clair, ça fait partie des trois courses de la triple couronne, avec le titre de Formule 1, avec les 500 miles d'Indianapolis, il y a ce Grand Prix de Monaco.
Et les 24 heures du Mans.
Et les 24 heures du Mans,
voilà,
qui sont une sorte de de jalon, de graal, effectivement, dans la carrière d'un pilote. Sergio Pérez, qui va donc arriver à Bakou, auréolé de ce succès. Bakou, c'est là où il s'était imposé l'année dernière. C'est une de ses deux premières victoires. Hein. C'était la première fois qu'il s'imposait sous les couleurs de Red Bull. Et clairement, hein, il a un très bon feeling avec cette voiture millésime 2022. Oui, tu le disais tout à l'heure, ça va peut-être finir par poser un problème chez Red Bull. Il va devenir le caillou dans la chaussure de Christian Horner, non ? Tu sens pas pointer ça
Si, tout à fait. Si, au moindre petit problème de Verstappen, il prend la tête, peut-être même du championnat, parce que je vois, après son abandon en ouverture de la saison, il a aligné 6 top 4.
Ouais.
Donc, c'est d'une régularité à toute épreuve.
Et en plus, tu veux que je complète ? J'ai le sentiment que, on le voit bien, il y a eu un autre abandon sur problème pour Verstappen, il y a eu un problème de DRS sur la voiture de Verstappen. On a le sentiment cette saison que le sort s'acharne un petit peu sur le Néerlandais. C'était plutôt le cas inverse l'année dernière où ça frappait la voiture du Mexicain et on ne sait pas pourquoi ça ne frappait pas celle de Max Verstappen. Alors on pourra toujours dire qu'il y a plus d'attention à porter à la voiture de Max Verstappen qu'à celle de Sergio Pérez. J'y crois pas parce que ce n'est pas dans l'intérêt d'une équipe de laisser un petit peu filer une voiture au profit de l'autre. Mais là, cette année... Bah pour l'instant, les ennuis, ils s'intéressent un peu plus à la voiture frappée du numéro 1 qu'à celle frappée du numéro 11. Je ne sais pas pourquoi. Je sens venir l'histoire que Sergio Pérez va être un problème, va être le facteur X, comme on dit souvent en sport.
On en avait parlé la semaine dernière quand même. Il a quelques éléments déjà qu'il a dû changer sur son moteur, donc qui donnerait peut-être lieu à des pénalités un petit peu plus tard dans la saison. C'est peut-être aussi ce qui va lui coûter, on verra bien. Mais en tous les cas, Helmut Marko, le conseiller spécial chez Red Bull, était très content. Il a dit 2 victoires en 1 an et demi, c'est très satisfaisant.
C'est ça, la deuxième partie de la phrase, c'est « il en faut pas plus, Sergio, on t'a compris, c'est très bien. »
Tu bouges pas là maintenant, c'est bon, t'as ton quota de victoire.
C'est là qu'il y a le problème et on va répondre puisqu'on pose la question « peut-il être champion du monde ?» Oui ou non, Sergio Pérez peut-il être champion du monde en 2022 ? Malgré tout ce que j'ai dit, je vous réponds non, parce qu'on ne le laissera pas faire. À un moment, chez Red Bull, on va lui mettre la main sur l'épaule en lui disant « Écoute Sergio, t'es bien gentil, on a un pilote qui s'appelle Max Verstappen. » Alors, à moins que Max Verstappen ait suffisamment... Alors, je corrige, pardon, je me remets dans le... Il peut l'être à condition que ce soit face à un pilote Ferrari. Mais si à un moment, ça pose problème à Max Verstappen, il n'y aura pas photo, on dira à Sergio Pérez « Sergio, merci pour tes services, mais reste à ta place. »
Oui,
c'est ma réponse.
Et Pérez, en plus, il se sent bien dans cette équipe. Horner l'a encensé. Et lors d'une conférence vidéo, la conférence habituelle qu'organise l'équipe, Pérez a dit « j'ai peut-être signé trop tôt à Horner ». Et il n'a pas fait passer ça pour un lapsus, et discrètement.
Il est très fort.
Mais on l'a, voilà. Et ça a bien été retenu, ça. Ça veut dire clairement que apparemment Pérez a déjà signé. Et que Red Bull va nous faire un petit peu patienter comme ça. Il nous annonçait ça de fin juillet, début août, ou juste avant le Grand Prix de Belgique, en faisant semblant de mettre en ballotage son poste, mais c'est déjà acté.
Et puis ça serait incroyable et ridicule de ne pas reconduire Pérez quand on voit ce qu'il fait en ce moment.
Oui, et puis Verstappen le dit lui-même, on s'entend très bien, et que le meilleur gagne. Il aurait pu ajouter entre parenthèses
tant
du
que
moment
bon.
Ce soir.
On est bien d'accord. N'empêche que, donc tu es d'accord avec moi, il ne sera pas champion. S'il faut dire oui ou non.
Écoute.
Il faut dire oui ou non.
Non, il ne sera pas champion.
Okay.
Non.
Alors, clairement. Juste un tout petit dernier message pour. On pense aux minots qui font du karting ou qui font du sport, n'importe quelle discipline. Il faut quand même se souvenir qu'il y a 2 ans, Sergio Pérez, il était à la rue. Parce que Racing Point avait été racheté par Laurent Stroll, que Laurent Stroll voulait faire venir Sébastien Vettel et qu'il y a Lance Stroll, le fils du patron, qui était là. Donc de toute façon, Sergio Pérez savait qu'il était condamné et il s'en était même pas offusqué en disant « c'est dans la logique des choses, il va falloir que je trouve une solution ». Il est arrivé donc chez Red Bull, quelque part un petit peu, c'était la solution de la dernière chance. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il peut être champion du monde. Comme quoi, parfois, les événements qui semblent très défavorables, eh bien, si vous les prenez de manière positive, peuvent se révéler être un tremplin pour l'avenir. C'était le côté philosophique, je vous rassure, j'en ferai pas d'autres. Premier juré, je ne vous embête pas avec ça, mais j'ai trouvé ça quand même un joli message. Pendant ce temps-là, pendant que Sergio Pérez caracolait vers une victoire inattendue et magnifique du côté de Monaco, il y en a un qui était tout près de chez lui et qui a cru vivre un enfer. C'était probablement l'enfer d'ailleurs, dans la tête de Charles Leclerc. Pole position, première partie de course maîtrisée. Tous les voyants étaient au vert pour le Monégasque dans ce Grand Prix de Monaco. Quand le moment du choix des pneus pour la Scuderia est arrivé. Alors on va éviter, Stéphane, oui, de jouer aux ingénieurs du lundi. Hein. C'est comme ça que qualifier
Enzo Ferrari,
exactement, les journalistes.
Ça nous va très bien.
Voilà, qui savent tout, qui savent tout quand le Grand Prix est terminé. Mais là, il serait quand même difficile de nier que Ferrari a assez mal négocié l'aspect tactique de cette septième épreuve de la saison. Pour être honnête, il y a eu, moi, de ce que je vois, une sorte de cocktail indigeste entre sidération et malchance pour la Scuderia, qui est restée dans un premier temps comme tétanisée par la difficulté de savoir quand rentrer, quel pneu mettre, est-ce qu'il fallait passer des pneus intermédiaires, est-ce qu'il fallait passer des pneus slick, quand le faire. Donc il y a eu voilà, cette tétanie pour l'équipe de stratégie de la Scuderia. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il faut bien le reconnaître, je le disais, un petit peu de malchance avec le trafic qui a joué à l'encontre des pilotes Ferrari. Il va falloir faire un rappel de ce qui s'est passé. D'abord, premier épisode, la course part, tout le monde est en pneu pluie. À un moment, on voit que la piste s'assèche, il faut passer en pneu intermédiaire. Et là, c'est toujours difficile, Stéphane. On rentrera un petit peu après dans le détail, mais c'est toujours difficile quand on est aux deux premières places du Grand Prix, c'est finalement peut-être la position la plus difficile parce qu'on a tout à perdre. On sait que si on fait le mauvais choix, on va nous le reprocher. Et Ferrari s'est retrouvé dans cette situation terrible.
Oui, alors d'autant plus tu dis qu'il fallait passer aux pneus, slick, peut-être, ou intermédiaire. Et c'était là la question. Et Sainz s'est rapidement posé la question en disant « moi, je passerai bien directement aux pneus slick ». Des concurrents étaient déjà performants en pneus intermédiaires, mais quand tu les mets, en fait, tu ne sais pas combien de temps tu vas mettre pour les amortir et si tu ne vas pas devoir passer trois tours plus tard encore au stand pour mettre des pneus slick et là, tu as tout perdu. Donc, il fallait être sûr de les amortir au moins. Et c'était un petit peu la question que s'est posée Ferrari et je dirais que ils ont, dans l'idéal, en fait, il fallait répartir les risques et c'est ce qu'ils ont fait au final parce que Sainz n'a pas monté les intermédiaires, donc il a fait qu'un arrêt sur cette séquence-là et Leclerc n'est passé pas les intermédiaires avant de prendre les slicks.
Mais donc, trop tard.
Voilà, le mal était déjà fait. En fait, quand Checo Pérez est rentré au stand, il fallait tout de suite le répondre.
Exactement. On va faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi exactement ce Grand Prix. Donc, on part en pneu pluie pour tout le monde parce que la piste est vraiment mouillée. Au 16e tour, Sergio Pérez décide de passer en pneu intermédiaire, voyant que les chronos réalisés par Pierre Gasly, qui a été le premier très très tôt dans cette course, et de manière très courageuse, à passer en pneu intermédiaire était un pari intéressant. Donc Sergio Pérez, qui était troisième à ce moment-là, décide de passer au stand.
Oui, 17e tour. Oui.
Fin du 16e.
Oui, exactement.
Donc, voilà. Donc Sergio Pérez passe au stand, chose des pneus intermédiaires, fin du 16e tour, début du 17e. Et là, pendant deux tours, il se met à rouler 6 ou 7 secondes plus vite que les pilotes Ferrari. Dans le même temps, Carlos Sainz dit « Non, mais moi, je veux pas de pneus intermédiaires. Je veux des slicks. » Et là, pour moi, c'est là qu'en fait, la machine s'enraye chez Ferrari. Déjà, ils ont eu un retard à l'allumage parce qu'il fallait tout de suite faire rentrer une des deux autos pour finalement neutraliser la stratégie de Sergio Pérez. En toute logique, il aurait fallu faire rentrer Carlos Sainz. Sauf que Carlos Sainz, manifestant son envie de passer directement au pneu slick, se pose un problème chez Ferrari, qui est de se dire « Ouais, mais alors là, si c'est la bonne décision, est-ce qu'on ne donne pas le sentiment de favoriser Carlos Sainz plutôt que Charles Leclerc ?» Oui. Et donc, on tergiverse un petit peu. Un tour se passe, deux tours se passent. Et là, ça y est, c'est trop tard, parce que 6 et 7 secondes plus vite pour Sergio Pérez durant ces deux tours, ça fait 13 secondes d'écart. Et du coup, eh bien, on fait rentrer Charles Leclerc, deux tours après Sergio Pérez, mais il ressort derrière, forcément, parce qu'on a perdu 13 secondes. Ouais. C'est fini. Charles Leclerc, à ce moment-là, quoi qu'il arrive derrière, a perdu le Grand Prix. La seule solution ensuite pour Ferrari, bah, c'est de coller à la demande de Carlos Sainz, de ne faire qu'un seul arrêt pour passer directement en pneus slick. Et c'est là que la malchance intervient un petit peu. Faut être honnête, parce que quand Carlos Sainz ressort, il est bloqué derrière, c'est Latifi, hein, qui le retarde un petit peu. Alors pas
12 virages, il a dit quand même. Hein.
Pas volontairement, et ça fait presque tout un tour, et ça permet à Sergio Pérez de repasser une deuxième fois par les stands et donc de passer des intermédiaires qu'il avait chaussé 6 tours avant au pneu slick. Il ressort devant et à partir de là, c'est terminé. La victoire n'est plus dans le camp de. Dans le camp de Ferrari.
Surtout sur cette séquence, le double arrêt, d'ailleurs du 22e tour, où on voit Charles Leclerc attendre derrière Carlos Sainz, ça lui fait perdre du temps, je ne sais pas, 2-3 secondes quand même, ce qui n'est pas rien. Alors, ils ont fait un double arrêt aussi chez Red Bull, mais là, ils étaient beaucoup mieux placés sur la piste et ils savaient qu'ils avaient une réelle chance de ressortir devant. Ouais. Et puis surtout, c'est qu'ils ont mieux géré, parce que si tu regardes bien sur les arrêts, eh bien, Perez et Verstappen ne sont pas gênés. Lors de leur retour
ça s'est mis
en piste, tout à fait. Et c'est même ça qui a guidé en fait l'arrêt de le moment de l'arrêt de Pérez, parce qu'il attendait un tour de plus et n'était pas sûr de repartir. Je crois que c'était devant Norris.
Alors, pour être tout à fait précis sur le temps d'arrêt au stand, Charles Leclerc a son deuxième arrêt. Donc quand il est obligé de patienter derrière Carlos Sainz, il s'arrête. Il passe 28 secondes dans la voie des stands. Le deuxième arrêt de Max Verstappen, c'est 26 secondes 9. Donc ça fait une toute petite seconde, mais qui, associé au fait que il y a eu aussi un petit peu de trafic pour Charles Leclerc
Pérez est ressorti devant Russell. Voilà. Alors c'est toujours un petit peu gênant une voiture aussi compétitive, mais il n'est pas ressorti derrière. Et c'est là que tout s'est joué. Et puis Verstappen a dit aussi, quand il s'est arrêté au 23e tour, qu'il avait fait un très très bon tour de rentrée juste avant de passer au stand. Et c'est aussi ce qui a joué. Et puis après, il a pris l'option un petit peu du risque maximal, c'est-à-dire qu'il coupe la ligne jaune pour barrer la route de Charles Leclerc. Et ça, c'est juste incroyable. C'est délibéré. Il a compas dans l'œil. C'est pas possible autrement. Et à la fin de la course, quand même, Ferrari porte réclamation.
Ouais. Ils sont déboutés parce qu'il y a une jurisprudence. L'année dernière, Lance Stroll avait franchi de la même manière que Max Verstappen, c'est-à-dire le pneu a effectivement franchi la ligne jaune qui matérialise la sortie de la voie des stands.
Mais pas complètement.
Et il n'a gêné personne puisqu'il n'y avait pas d'autres voitures à ce moment-là. L'année dernière, Lance Stroll avait finalement échappé à toute sanction. Et là, on peut être sûr que la cellule juridique de Red Bull avait gardé ça sous le coude en disant « Je suis absolument certain qu'il y a une cellule qui existe chez Red Bull qui n'existe peut-être pas chez certaines équipes, qui prend toutes les décisions » de la FIA en compte.
C'est le travail du directeur sportif.
Et, exactement.
Qui connaît les règlements par cœur.
Et qui sait ressortir en disant, hop, tiens, bien ça sûr. Tu peux ressortir à ce moment-là, c'est en attaque ou en défense, en disant, voilà, il y a eu telle décision, tel jour. Et donc, il n'y a pas eu de sanction, ni pour Sergio Pérez, où là, manifestement, on a fait la démonstration qu'il n'avait pas franchi la ligne jaune du tout, hein, puisque là, il n'y a pas eu de question. En revanche, ça a été un petit peu plus compliqué pour Max Verstappen, mais il y avait cette jurisprudence troll de 2021. Et donc, Ferrari a été débouté de sa réclamation. Et donc le changement évidemment a été validé sans s'apesantir pendant des heures et des heures sur les choix stratégiques. C'est toujours facile quand on est comme ça dans notre canapé ou quand on est le lendemain d'une course de juger des décisions de la cellule dirigée par Iñaki Rueda. Le constat, il est là, Stéphane. Hein. Ça fait désormais 4 Grands Prix consécutifs que Red Bull marque plus de points que Ferrari. Il y a désormais 36 points d'avance pour Red Bull par rapport à Ferrari, alors que sur ces Grands Prix, Charles Leclerc est parti en pôle 3 fois, hein, Miami, Barcelone, Monaco, et que sur ces 3 Grands Prix, il y a eu 2 fois où Ferrari était sur les 2 premières places de la première ligne, et à chaque fois on a réussi à inverser la tendance du côté de chez Red Bull pour faire s'imposer Max Verstappen 3 fois ou Sergio Pérez du côté de Monaco. On n'arrive plus à transformer les essais chez Ferrari.
On a l'impression que les vents sont contraires. On a parlé de cette fameuse ligne jaune. Alors Verstappen était dans son bon droit, comme d'habitude un petit peu. Il a pris un risque, c'est un voltigeur et c'est payant.
Ouais, alors.
Il risquait simplement de, soit il perdait, il était quasiment sûr de perdre la position sur la piste, soit il la perdait après coup en prenant une pénalité de 5 secondes, mais derrière lui, il y a le vide. Donc il prend quasiment pas de risque là-dessus. Et puis, bon, grosse colère quand même de Charles Leclerc, donc on comprend vraiment que quelque chose s'est très mal passé chez Ferrari. Il y a quand même une fissure un petit peu.
Bah, quand là, on lui dit rentre, et puis d'un seul coup, non, reste dehors, alors qu'il est déjà
tout
dans la voie des stands.
Et qu'il se sentait là, bien avec les pneus intermédiaires, voilà, et qu'il comptait certainement faire un ou deux tours de plus, qui aurait peut-être changé les choses, je ne sais pas. Mais en tous les cas, Mattia Binotto a parlé d'erreur de la part de son équipe, mais aussi d'aberration. D'autres choses un petit peu étranges aussi, il a dit. Chez Red Bull, on avait les voitures encore sans les pneus à 3 minutes de la procédure du départ. Hein, de la procédure du départ, alors que normalement il faut respecter une carence de 5 minutes. Donc il a dit, je ne comprends pas non plus, et il faudrait que la FIA clarifie aussi ses décisions là-dessus, et qu'elle ait plus de régularité dans l'observation de
ces
décisions.
On en avait parlé de la cohérence des décisions l'année dernière, on y revient, mais ça y est, le ton est en train de monter petit à petit entre Red Bull et Ferrari, parce qu'avant cela, Helmut Marko, on avait mis une petite couche sur le fait que Charles Leclerc, après sa pole position, s'était pas arrêté. Alors c'était après ou
c'était en Q2. En Q2 que Charles Leclerc a raté le point
de pesée,
tout à fait. Et là, en fait, Ferrari a compris tout de suite son erreur. Donc il y a des gens quand même qui sont sur le coup, exactement. Et les mécaniciens ont ramené tout de suite la voiture.
Avant de faire la moindre intervention. Comme ça, on l'a vraiment pesé dans sa configuration dans laquelle elle a fait le chrono.
Voilà, ne pas travailler sur la voiture d'ici là. Donc, ça aussi, Helmut Marko le savait, mais il a envoyé une petite pique.
Et on commence là, ça y est.
Et on a pensé que Ferrari avait porté réclamation après la course parce que la FIA n'avait même pas noté l'incident de Céline Jaune. Je trouve ça un petit peu limite quand même.
Oui, parce que c'était visible.
Par principe, exactement, on se posait la question. Et Mattia Binotto a dit non, nous, on n'a pas envie de se prendre la tête avec Red Bull. C'était pas ça, mais on voulait vraiment avoir une clarification. Et c'est une façon de dire, la FIA est un petit peu incohérente aussi là-dessus. Il faut reprendre les choses en main.
Mais on voit que ça commence à monter. Là, il va y avoir un week-end sans Grand Prix. Peut-être que du côté de chez Ferrari, on va pouvoir se poser un petit peu parce qu'on voit que la séquence, elle est quand même très, très négative. Désormais, Charles Leclerc, qui menait au championnat, se retrouve deuxième. Mais il est maintenant à 9 points de Max Verstappen. C'est rien, 9 points. Il y a encore beaucoup de Grand Prix. Mais il est talonné par Sergio Pérez, il n'y a plus que 6 points d'avance. Carlos Sainz est cinquième du championnat, devancé par George Russell, même s'il est revenu sur les talons du Britannique avec ce podium. Voilà, et on sent, c'était déjà très compliqué après la Catalogne. Là, il va falloir mettre à profit ce peu de temps qu'on a avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan pour essayer de remobiliser un petit peu tout le monde. Mais ça se sent là qu'en ce moment, c'est très, très compliqué. Et Charles Leclerc, je pense qu'il va avoir besoin d'un petit peu de temps pour encaisser cette déconvenue, alors que cette victoire à Monaco, il n'a jamais franchi la ligne d'arrivée de son Grand Prix. Là, c'était la voie royale vers la victoire. Il termine quatrième au pied du podium, alors que c'est pas de sa faute. Alors, on sait que c'est un travail d'équipe, la Formule 1, on le sait. Mais là, il va falloir encaisser.
Et pour reprendre la main, ça ne va pas être facile parce que Ferrari a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveauté sur la voiture au mois de juin. Et on sait que toutes les équipes se posent la question de quand mettre des nouvelles pièces. Je crois que c'est Red Bull, Ferrari et Mercedes qui ont dit très clairement…
Le budget de cap, on ne pourra pas le tenir.
On ne pourra pas le tenir. Voilà. Voilà. Bah si, débrouillez-vous. C'est fait pour ça justement. Et ils ont toujours l'habitude d'avoir des dérogations. Ah ben non, on va faire comme ça. Il y en a d'autres qui travaillent mieux, qui sont plus prudents, Alpine, etc.
Ouais. Alors là, l'élément qu'on met en avant, c'est parce qu'il y a beaucoup d'inflation en ce moment. On vous en parle sans doute un peu partout. Vous le voyez bien, le prix de votre caddie, il est un peu plus cher. Bah, c'est la même chose quand on achète des composants en Formule 1. Donc en fait, on est en train de commencer de négocier une rallonge du côté des constructeurs.
Ce dont ne veulent pas les autres équipes, c'est tout à fait normal.
Eh bien oui, elles ont fait attention.
C'est comme ça, bien sûr. Et en plus, elles étaient certainement parties pour 23 Grands Prix. On a réduit à 22. Alors, le règlement financier est fait pour, je crois que c'est 124 millions d'euros maxi dans le budget de cette année. Ça, c'était pour 21 Grands Prix. Et on rajoute 1,2 million pour chaque Grand Prix supplémentaire. Donc après, la suppression d'un Grand Prix ne change pas grand-chose. Mais simplement, il faut être vertueux. Il faut montrer le bon exemple. Et ces équipes-là ont dépensé quand même un petit peu à tout va. Et ça va peut-être jouer d'ici la fin du championnat.
On verra bien. Mais en tout cas, là, du côté de la Ferrari, il va falloir vraiment se poser les bonnes questions avant de négocier la prochaine épreuve qui aura lieu donc à Bakou. Parce qu'on parlait de limitation des budgets.
Je n'ai pas. D'accord, ça y est, je voilà.
Mais c'est un Grand Prix qui va valoir son pesant d'or. On va passer au troisième point que l'on voulait développer aujourd'hui dans Les Fous du Volant en compagnie de Stéphane Vrignot. C'est le Grand Prix de Monaco est-il en danger? Puisque vous le savez, on a négocié ce week-end l'édition 2022, mais que pour l'instant, au calendrier 2023 et suite, pour l'instant, l'épreuve de Monégasque n'est pas au calendrier.
Franchement, je crois que c'est la première fois que ça arrive.
Oui, en général, il y a de l'avance. En général, quand la F1 négocie la reconduction d'un Grand Prix avec des organisateurs, c'est lors du Grand Prix qu'on annonce la reconduction du contrat. C'est de bon usage de faire de la sorte. Et ça n'a pas été le cas ce week-end à Monaco.
Je vais même te dire plus, Gilles, c'est que jusqu'à ces dernières années, en tous les cas les années Ecclestone, Monaco choisissait sa date au calendrier. Il laissait tout le calendrier ouvert. Alors c'était la semaine dernière semaine de ou avant dernière semaine du mois de mai, la semaine du jeudi de l'Ascension. Et on se posait même pas la question. C'était le Grand Prix, je dirais pivot. Et puis les autres s'organisaient autour.
Mais les temps ont changé. Le Grand Prix de Miami qui a fait son apparition cette année avec ses organisateurs qui ont régulièrement évoqué l'envie de devenir le nouveau Monaco. Et on a tous bien vu cette fausse marina du Grand Prix de Miami comme un clin d'œil, ou en tout cas un doigt pointé vers Monaco en disant « Nous aussi, on est capable d'avoir une marina, même si elle était en plastoc. » voilà. Mais plus sérieusement, on a vite compris que le statut de ce Grand Prix de Monaco était vraiment menacé. Situation confirmée donc avec le fait qu'on n'annonce pas la reconduction du contrat. Il faut désormais que le prince Albert de Monaco prenne le dossier en main. Et il y a eu cette déclaration tonitruante de Toto Wolff, Stéphane. C'est peut-être le premier élément qu'on peut noter.
Alors oui, je cite Toto Wolff, c'était dimanche, bien énervé quand même après la course de Hamilton, coincé derrière Ocon, coincé derrière Alonso, etc. Toto Wolff, donc le directeur d'équipe de Mercedes, a dit « Il faut revoir ce circuit, il ne devrait pas être possible de rouler 5 secondes à 5 secondes des temps autour comme une Formule 2 et avoir une procession. » C'est vraiment ce qu'on a eu, c'est vrai. C'est un endroit et un spectacle fantastique, mais ça serait génial que la course soit au même niveau. C'est vrai, ça résume bien le sentiment qu'on avait dimanche soir. On a eu des dépassements, mais si tu regardes bien, le top 5 s'est joué sur des arrêts au stand. Même Russell a dépassé Norris sur un coup de stratégie. Ça, c'est un petit peu dommage.
Stéphane.
Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Justement, le nombre de dépassements, c'est souvent le baromètre pour la spectacularité d'un Grand Prix, même si on sait que c'est un petit peu artificiel, parce qu'avec le DRS, il y a des dépassements qui ne sont pas vraiment sportivement valables.
Mais les chiffres, ça
reste un baromètre.
DRS.
Donc, allez, vas-y. Donc, le nombre de dépassements sur les précédentes éditions du Grand Prix de Monaco.
Ça. Parce qu'en fait, c'était des éditions sur le sec. Et donc, on avait 15 dépassements en 2016, 3 en 2017, 6 en 2018, 2 en 2019 et 0 en 2021. Alors, vous vous souvenez que dans le premier tour, c'était Schumacher qui avait dépassé Mazepin. Ouais, n'était-ce pas ma version, je ne sais plus, mais je crois que c'était Schumacher qui avait dépassé Mazepin à l'arrivée à l'épingle. Mais en fait, ça n'entre pas dans ce détail-là parce que les statistiques ne prennent pas en compte en fait les dépassements dans le premier tour. Ils considèrent que c'est un petit peu la cohue du démarrage et que ça boosterait un petit peu artificiellement les chiffres, ce qui est vrai. Et maintenant, c'est clairement insuffisant, c'est famélique. Là.
C'est censé confirmer effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles sur ce Grand Prix de Monaco. Alors, on dit, est-ce que le Grand Prix de Monaco est adapté à la Formule 1? Finalement, moi, je me demande si ce n'est pas plutôt l'inverse, si ce n'est pas les Formule 1 qui ne sont plus adaptés au Grand Prix de Monaco. Parce que entre les Formule 1 des années 70 et les Formule 1 qui évoluent aujourd'hui, l'empreinte au sol de la voiture, elle a doublé. Les voitures, elles font 2 mètres de large. Oui, forcément, c'est quand même beaucoup plus compliqué de dépasser dans ces cas-là.
Oui, mais la largeur n'a pas augmenté considérablement. Elles étaient descendues à 1,80 m dans les années 2000. Elles sont surtout un petit peu plus longues, elles sont plus lourdes, elles sont plus pataudes. Et c'est vrai qu'avec un empattement un petit peu plus long sur un circuit comme ça, ça ne favorise pas la vivacité. J'en viens juste à la déclaration de Toto Wolff qui disait, alors ça c'était un petit peu pour évoquer l'ami Alonso, on ne peut pas rouler à 5 secondes du temps autour. Bon, c'est ce qu'avait fait quand même Ayrton Senna, qui était 5 secondes moins rapide que Mansell à la fin du Grand Prix en 1992, et Mansell essayait de déboîter dans tous les sens. Et on avait trouvé ça génial parce qu'on s'était dit, mais non, c'est Monaco, c'est comme ça, et que la course se gagne en qualification aussi, et c'est l'ADN du Grand Prix. Point. Bon,
mais quand on a. Les qualifs, elles n'ont pas été géniales non plus.
Voilà, c'est ça. Et quand on n'a pas de dépassement pendant la course et que la qualif a été, je dirais, un peu chaotique, ça pose question aussi. Alors. On en a parlé un petit peu ici parfois, c'est que quand on a, pour éviter un petit peu du trafic, spécialement sur des circuits urbains, moi je préférerais une Q4 simplement avec 3 ou 4 pilotes à la fin qui passent les uns après les autres.
Et, une sorte de super pôle.
Une pôle ne se joue pas sur un drapeau rouge. Ça fait 2 ans de suite que ça arrive. Là maintenant, il faudrait un petit peu percuter. On nous dit, il y a un règlement, il est fait comme ça, ça ne bougera pas. Bon, il faut évoluer, c'est tout. Et je dirais, pas de tabou maintenant. On essaie de faire des choses. On est capable de faire des courses sprint qui, pour nous, ne servent strictement à rien, ce qui est un pré-grand prix sur 3 week-ends dans l'année. On a voulu faire des grilles inversées. Tu as remarqué, Gilles, que Ferrari n'en parle plus du tout.
Ah bah non.
Voilà, ça, c'était la panacée l'année dernière pour Mattia Binotto. Maintenant, c'est devenu complètement ringard. On a jeté ça à la poubelle. Mais sur c'est vrai que gâcher les chances de Verstappen et puis ne pas voir Leclerc aller au bout de son effort en fin de Q3, c'est un petit peu frustrant. Et puis, c'est à la fin de la Q1, c'est la ruée. On rouvre la piste pour 2025 et tout le monde n'a pas le temps de s'extraire de la pit lane pour couper la ligne de chronométrage.
Ça, c'était vraiment dommage.
Voilà,
ça, c'est vraiment
dommage. Donc, il y a quelque chose d'aberrant. Il faut l'expliquer très clairement aussi aux gens de la FIA pour dire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que, en fait, les chances des uns et des autres, c'est jouer dans la pit lane. Bon, je trouve pas ça équitable. Alors, je dirais, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Est-ce qu'il est possible de rajouter un temps forfaitaire ou d'augmenter ce temps en fin de qualif pour au moins permettre que tout le monde franchisse la ligne et que tout le monde ait sa chance? Parce qu'après, dans l'autre sens, on a eu 6 ou 7 pilotes qui étaient privés de s'élancer, dont Hamilton, dont Gasly. On ne parle pas des moins bons. Et là encore, ça fait parler, ça fait polémique et ça donne l'idée vraiment d'un sport qui n'est pas bien régulé.
Tu dis pas de tabou? Alors moi, je vais te dire ce que je pense. Ça n'a strictement rien à voir avec tout ce que tu viens de dire. Même si c'est parfaitement justifié et je suis parfaitement d'accord avec toi, ça n'a strictement rien à voir. Ce qui pose problème, je vais te le dire, c'est une série en fait de particularités dont disposent les organisateurs du Grand Prix de Monaco. Monaco, la première chose, paye une redevance infiniment moins importante que tous les autres grands prix. Stéphane, c'est toi qui es vraiment le grand spécialiste des chiffres. Combien on paye à Monaco pour avoir le grand prix?
5 millions, grand maxi, c'est ce qu'on appelle le prize money ou le prix du plateau. C'est ce qui est versé aux promoteurs de la Formule 1 qui le redistribue à toutes les équipes en fin de championnat.
Il y a d'autres grands prix qui...
La moyenne, c'est 20. Voilà. Miami, c'était 55 millions. Ils arrivent...
Vous imaginez le rapport.
Ils ont de la surface financière.
Donc, la Formule 1 veut renégocier.
C'est pour ça qu'on les met sous pression. C'est parce qu'il y a cette somme qui est assez ridicule maintenant en regard de tout ce que payent les autres. Donc, on les met un peu sous pression, mais pas seulement pour ça.
Non, pas seulement pour ça. Monaco, les organisateurs, ont la main sur la réalisation télé du Grand Prix. Alors, vous allez me dire, parce que Monaco a aussi la main sur les panneaux publicitaires autour du Grand Prix. Alors que tout ça, normalement, ce sont les organisateurs de la Formule 1 qui gèrent tout ça et qui ont donc des accords commerciaux et qui arrivent à monnayer le spectacle
de la Formule 1.
Et qui font cohabiter
leurs sponsors, y compris qui sont concurrentiels de sponsors premium institutionnels de la Formule 1. Donc, c'est pour ça que ça froisse un peu quand même le promoteur.
Et oui,
c'est normal.
Exactement. On roulait habituellement le jeudi à
concession.
Monaco. On ne roulait pas le vendredi. Et puis finalement, cette année, on a fait vendredi, samedi, dimanche, week-end classique. Preuve que déjà, ça avait commencé depuis un petit moment. Tout ça, ça fait évidemment trop. On veut uniformiser, on veut rentabiliser ce Grand Prix de Monaco. Et les organisateurs, en fait, sont en train de mettre la pression sur les tenants de ce Grand Prix de Monaco. Et là, c'est carrément le prince Albert qui a pris le dossier en main. Sur les chantiers, il y a déjà ce ce problème du fait qu'il n'y a pas assez de dépassement au Grand Prix de Monaco. Donc on est en train d'imaginer en fait une nouvelle formule du Grand Prix de Monaco. Alors, c'est un dossier qui est
oui,
très vieux. Hein,
et... Formula One pousse pour essayer d'élargir la piste. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Je crois même qu'il y a une année, ils ont décalé les rails dans la montée. Dans la grande montée après Saint-Devot de 8 cm, et les pilotes ont dit on l'a vu tout de suite. C'est juste incroyable. Alors, s'il y avait des choses comme ça qui étaient possibles de 50 cm, ça changerait peut-être la donne sur certains.
On va pas pouvoir raser beaucoup de choses, voilà, à Monaco.
Mais moi, je vois pas beaucoup de marge de manœuvre,
non,
à part à la sortie du tunnel.
Rajouter
un petit peu la distance de freinage, parce qu'on a vu que ça n'apportait quasiment rien, alors que théoriquement, le règlement de 2022 est fait pour que des voitures puissent se suivre. Donc, s'attaquer à la sortie du tunnel sur ce gros freinage, mais en contrepartie, quand même, on rognerait sur une distance de dégagement qui est essentielle. En cas de catastrophe, panne de frein, il faut quand même
avoir du dégagement.
Un petit peu, avoir
exactement.
Du dégagement.
Mais on peut donc imaginer un nouveau circuit de Formule 1, peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, à l'est ou à l'ouest, j'en sais rien, je ne connais pas trop les lieux, hein, je n'y vais pas souvent en vacances et j'y habite pas encore à Monaco. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu, de rallonger un peu ce circuit.
En Formule 1, en Formule E, on l'a vu, ils ont créé un autre circuit avant de passer sur le circuit de Grand Prix. Donc, après, s'il fallait faire un détour pour dynamiser un petit peu ce circuit, est-ce que ça serait possible? Alors, on renoncerait un peu à tout ce pan d'histoire, mais on a envie de voir des choses un petit peu plus intéressantes plutôt que faire le constat, le top 5 a été déterminé au stand. Bon,
voilà.
Ça, c'est frustrant.
En tout cas, il va falloir changer des choses. Le prince Albert de Monaco a dit qu'effectivement, il allait falloir mettre la main à la poche et qu'on a évoqué déjà une somme de 17 ou 18 millions.
Ouais, hein, ce qui n'est rien du tout, ce qui est une paille pour Monaco.
Ouais. Mais ça prouve que ça y est.
Voilà.
Le côté un petit peu, bon, bah, c'est Monaco, c'est pas pareil. Non, ça y est, c'est en train de passer à la trappe.
Si c'était qu'une question de gros sous, ça serait déjà signé. Mais il y a toute cette histoire, Gilles, que tu as expliqué, la réalisation, les sponsors particuliers, propres à l'organisateur, qui font concurrence à
certains sponsors de la Formule 1.
De la Formule 1, voilà, c'est là où ça chope. Et même si il fallait payer 30 millions, je pense que ce Grand Prix serait quand même extraordinairement rentable pour Monaco, parce que c'est une vitrine fantastique pour
c'est
la
sûr.
Principauté.
C'est sûr.
Et on va la garder, de toute façon, on aura une bonne nouvelle dans l'année, c'est certain.
Bah, c'est le moment de donner la réponse. Alors, pour toi, ce Grand Prix, il est...
Ça ne fait pas de doute là-dessus. Tout le monde le veut, tout le monde en a envie. Il n'y a qu'à voir le nombre de sponsors, d'opérations, de communications autour de toutes les marques. Ça reste, de toute façon, le Grand Prix le plus important, clairement.
Je suis d'accord avec toi. Le Grand Prix de Monaco n'est pas en danger. Ce sont simplement des négociations qui sont un peu plus serrées désormais pour la reconduction de ce contrat. Mais on l'apprendra dans les semaines ou dans les mois qui viennent. On aura un Grand Prix de Monaco en 2023, en 2024. Ça continuera. En tout cas, c'est notre sentiment. Et c'est voilà, les quelques infos qu'on a réussi à obtenir à l'issue de cette 7e épreuve de la saison. Et évidemment, on en reparlera quand un jour on nous annoncera la reconduction du Grand Prix de Monaco pour les saisons à venir. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Stéphane. On a été quand même assez complet, même si on aurait pu en parler pendant des heures, hein, de ces histoires de stratégie là, au moment des choix de pneumatiques de la Scuderia et de Red Bull. On pourrait rester encore une ou deux heures, mais je crois qu'à un moment, il faut s'arrêter.
Voilà, je dirais juste que pour Ferrari, c'était plus simple que lors de la dernière victoire en 2017, où il s'était un petit peu amusé avec Raikkonen et Vettel, en laissant un petit peu Raikkonen mener et puis Vettel économiser ses pneus. Puis ils avaient fait une inversion de position parce qu'ils en avaient tellement envie. Mais là, il n'y avait pas de concurrence. Et bah, ça fait 4 ans qu'il y a de la concurrence et ça fait 4 ans que Ferrari termine deuxième du Grand Prix à Monaco. Et donc, on va scouter ces histoires de stratégie contre Red Bull sur les prochains Grands Prix et on verra si Ferrari est vraiment, vraiment au niveau des champions du monde.
Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. De cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain. On va pouvoir se reposer un peu, hein, parce que entre la Formule 1, le MotoGP, les 500 miles d'Indianapolis le week-end dernier, là,
Et puis les pilotes se reposent aussi. Hein. J'ai lu un truc hallucinant. Hamilton a dit, on est épuisé mentalement pendant 2 jours après ce Grand Prix spécialement. Quasiment, on ne peut rien faire. Hein. Ça fait des décennies que c'est comme ça, où tous les pilotes le lundi sont cuits et ne font quasiment rien. Mais là, oui, on leur souhaite bien du repos pour repartir à l'abordage du côté de Bakou.
Ça sera effectivement en Azerbaïdjan pour la prochaine épreuve. Nous, on se retrouve début de semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant. D'ici là, on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.